L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors nous entamons aujourd'hui une série de au moins 3 émissions sur un domaine qui nous touche tous de très près en tant que couple, en tant que personne. C'est tout le domaine de la sexualité concernée, revue, corrigée, on pourrait dire, éclairée par la révélation chrétienne. Et d'abord, en cette première étape, aujourd'hui, nous allons essayer de mieux saisir ce que dit Jésus concernant le mystère conjugal et ce qu'il va exprimer comme le cœur du mystère conjugal, ce mystère de une seule chair. Donc on va reprendre un texte qu'on avait déjà évoqué précédemment, mais qu'on va essayer d'approfondir. C'est le texte de Matthieu 19. Maud, tu veux nous le lire ?
Voilà. C'est alors que des pharisiens viennent à Jésus et le mettent à l'épreuve avec cette question. Un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ? Il leur fait cette réponse. Vous n'avez donc pas lu que le Créateur, au commencement, les fit homme et femme, et dit... Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. De sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Et nous pouvons peut-être ajouter un verset de l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Dans cette première épître, glorifiez Dieu dans votre corps. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Voilà, je crois que ce qui est très important au travers de ce texte évangélique et repris après par saint Paul, c'est cette question, ce fait que Jésus souligne combien ce une seule chair, la sexualité, est au cœur de l'expérience de l'alliance de Dieu avec son peuple. Est centrale dans l'alliance conjugale. Ce n'est pas simplement une intimité de cœur et d'esprit, mais elle se cristallise, elle se symbolise dans ce une seule chair.
Oui, il y a ce verbe très important qui est utilisé plusieurs fois dans la parole, et cette fois-ci, il s'agit de quitter son père et sa mère, c'est-à-dire son passé, son histoire, pour s'attacher à son époux ou à son épouse. Il y a donc une démarche de départ. De la même façon qu'Abraham, pour aller vers la promesse, la terre de la promesse, avait dû quitter son pays, nous sommes invités à rentrer dans une alliance qui nous fait quitter nos racines, nous mettre en route pour aller vers l'union parfaite, c'est-à-dire être une seule chair. Et une seule chair, dans la parole de Dieu, ça veut dire un seul être, une seule âme, un seul esprit, un seul corps. Tout est unifié dans la vision chrétienne.
Et donc, c'est ça qui est important de bien signifier, c'est que dans cette parole de la Genèse, il est bien dit, et quitter l'alliance de la famille, de ses parents, pour s'attacher. Donc, il y a vraiment une dynamique, il y a un mouvement, il y a un choix, il y a une élection de cette alliance qui se concrétise. Au niveau qui doit se concrétiser au niveau de ce une seule chair. Donc on perçoit bien que dans ce qui est exprimé par Jésus, que la sexualité des époux n'est pas quelque chose qui se surajoute, c'est pas quelque chose qui est supplémentaire, ce n'est pas quelque chose qui est accessoire, mais c'est comme la cristallisation de la communion, du choix, de l'alliance entre les époux.
Oui, souvenons-nous de ce que nous avons déjà partagé ensemble dans ces émissions au tout début par rapport au projet de Dieu en Genèse 1, qui était donc ce projet de faire de l'union de l'homme et de la femme l'image du visage de Dieu, l'image de l'amour, l'image de l'unité parfaite entre un masculin et un féminin, et qui par cette réalisation de l'unité va dire quelque chose de l'amour de Dieu. Donc en Genèse 1, Dieu disait que c'était très bon, et donc de cette unité, cette communion se cristallise bien sûr dans l'acte sexuel, mais toute la vie est imprégnée par cet objectif d'une communion parfaite.
voilà, et dans le dessein de Dieu, dans la théologie hébraïque, juive déjà, et reprise par toute l'anthropologie et la théologie chrétienne, il n'y a pas de dichotomie entre l'esprit, le cœur et le corps, mais une profonde symbiose et une profonde articulation. Et c'est pour ça que dans le premier chapitre de la Genèse, quand l'homme et la femme sont soulignés, sont créés, et soulignés comme étant à l'image de Dieu, à la fois en tant que personne et à la fois en tant que couple, alors que tous les éléments, les créations, le texte de la Genèse souligne que tout cela était bon, et ben sur l'aspect du couple, il est souligné que Dieu vit que cela était très très bon. Donc cette il y a vraiment la reconnaissance du bien suprême dans cette communion, dans cette articulation, on peut dire, dans cette alliance conjugale, et qui sera beaucoup plus explicitée, si on peut dire, moins symbolique mais plus explicite dans l'expérience de dans le texte de Genèse 2.
Voilà, lorsque Adam se trouve en face de Ève, il y a cette jubilation absolument magnifique. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bon, bien sûr, dans un langage contemporain, c'est pas très romantique de dire à son conjoint, enfin, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça ne nous parle pas de la même façon. Mais si on se replace dans le contexte de l'écriture de ces premiers chapitres de la Genèse, on comprend qu'il y a une portée beaucoup plus profonde à ces termes. Nous sommes de même nature, de même dignité, de même égalité, et nous trouvons l'un dans l'autre un vis-à-vis qui va nous permettre d'avancer vers le royaume et vers l'amour.
Et ce qui est clairement souligné dans le texte de la Genèse, c'est que c'est cette exultation d'Adam vis-à-vis d'Ève, c'est cette joie immense, cette reconnaissance de son alter ego, où il a, et Adam exprime, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc il reconnaît que l'amour pour l'un, pour le conjoint, exprime qu'il participe d'un seul être, d'une seule chair. Donc il y a cette reconnaissance du cœur et de l'âme qui va s'exprimer, bien sûr, dans l'alliance des corps. Et ça souligne cette profonde intimité, mais aussi ce qui habite le cœur de l'homme et le cœur des conjoints, c'est cette exultation. Et donc l'exultation de l'amour d'un homme et d'une femme qui va s'exprimer jusque dans une seule chair, s'est inscrit depuis les origines. Effectivement, après le texte de Genèse 3, avec toute l'expérience de la chute et après toute l'expérience de l'histoire, nous montrera que nous sommes éloignés de cela, mais nous y viendrons plus tard. Mais ça montre bien, surtout quand Jésus souligne en Matthieu 19 que pour comprendre l'alliance conjugale, il faut revenir à la Genèse, et donc pour comprendre le sens de la sexualité, il faut revenir à la Genèse, et de voir que une seule chair, cette union des époux, est vraiment une profonde bénédiction. Et que non seulement c'est une bénédiction, mais c'est une joie suprême. Et cette joie, elle est inscrite au cœur de la révélation. Elle est inscrite donc dans notre appel. Et donc pour tout couple qui désire s'unir selon le dessein de Dieu, c'est cette joie, cette communion que nous avons à vivre. Et c'est pour cela que c'est un tel mystère, puisque c'est inscrit dans les gènes, dans l'anthropologie humaine. C'est pour ça que Jean-Paul II, qui a réalisé une catéchèse immense sur le sacrement du mariage, sur le sacrement du corps, sur le sens de la sexualité, Jean-Paul II parlera de la sexualité comme de la liturgie conjugale, de la liturgie propre des époux. Il dira que c'est l'expression et les manifestations d'un mystère divin authentique.
Oui, je crois que c'est une expression qui est magnifique parce qu'elle dit à quel point la sexualité est une célébration de l'amour, une offrande. Donc quand on dit liturgie, c'est-à-dire que la sexualité est appelée à être le lieu, si je puis dire, de la célébration la plus plénière de l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme. Et qu'à ce moment-là, elle devient liturgie, elle devient le lieu même où Jésus, où Dieu vient faire comme vient se réaliser, vient se rendre présent par cet amour échangé et donné.
On peut reprendre ce terme de liturgie, est un terme très fort, surtout dans la bouche d'un pape qui vraiment parle au nom de l'Église et au nom de ses 2000 ans de révélation. Et le Concile Vatican II, dans sa constitution sur la Sainte Liturgie, dit « Il appartient en propre à la liturgie d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. » Si on transpose cette définition de la liturgie à la sexualité selon les desseins de Dieu, on se rend compte du poids, de la densité qui est donnée à la sexualité humaine, à la sexualité des époux, qui doit pouvoir révéler cette image de Dieu, de pouvoir signifier cette unité. L'image de Dieu, elle est au niveau de la personne et au niveau de la communion du couple. Elle est donc à l'image de Dieu Trinité, un et trine à la fois. Et donc cette sexualité doit pouvoir exprimer au sein des époux cette image de Dieu. Et ça, c'est un très très grand mystère.
Alors on sait qu'aussi que la sexualité n'est pas simplement le moment de la célébration, qu'elle s'exprime au travers de toute la vie quotidienne et qu'elle va être comme l'endroit de cristallisation la plus intime de la communion du couple. Vous savez que dans l'Église, l'Église ne reconnaît pas un sacrement de mariage où il n'y a pas consommation, c'est-à-dire qu'elle est constitutive même du sacrement. Elle réalise le sacrement parce que les époux se donnent et s'offrent dans la relation sexuelle. Donc il y a là un appel à une relation extraordinairement belle et dense que nous n'avons pas l'habitude de voir présentée dans les médias, loin s'en faut.
C'est important de souligner aussi combien dans la théologie de l'Église, la liturgie, c'est la vie du peuple chrétien qui va nourrir et exprimer sa foi au travers de la liturgie. Mais la liturgie également va nourrir la vie des chrétiens. Il en va de même pour la sexualité, où effectivement la communion dans la vie au quotidien des époux, cette communion d'être, de faire, d'éducation, de travail, cette communion d'état d'esprit, cette tendresse au quotidien, va comme à un moment être célébrée et consommée dans l'union sexuelle. Mais celle-ci, en termes de célébration et d'expression, va également fructifier après et renvoie également à la vie. Et donc il y a une respiration constante entre la liturgie propre des époux et leur vie au quotidien. Comme il en est de même pour le mystère de l'Église, dont le mystère de la foi est célébré au cœur de la liturgie, bien sûr au cœur de la liturgie eucharistique, et on dit combien c'est au cœur de la foi de l'Église que l'Eucharistie nourrit et irradie toute la vie de l'Église dans tout ce qu'elle comporte de plus concret, jusque dans la charité, dans le service des pauvres et dans l'engagement au quotidien, dans tous les éléments de la sphère de la vie. Et bien il en va du même pour les époux au niveau de la sexualité, lorsqu'elle est vécue, bien sûr, selon les desseins de Dieu.
Voilà, on comprend bien qu'il y a là une logique où c'est l'ensemble de la vie qui est dans une perspective de don, d'offrande complètement totale à l'autre, et qu'on n'est pas du tout dans une sexualité, je dirais, de besoins primaires tels qu'elle nous est souvent présentée malheureusement par le monde.
My
continuons notre méditation sur le sens de la sexualité selon la révélation chrétienne, toujours en partant du texte de Matthieu au chapitre 19. Et nous soulignons avec le concours de Jean-Paul II, pour souligner combien la sexualité selon le dessein de Dieu est une véritable liturgie. Et justement, il y a quelque chose qui illustre cette prise de conscience, qui ne date pas d'il y a quelques années avec Jean-Paul II, mais c'est inscrit vraiment profondément dans la tradition de l'Église, c'est que cette tradition fait un parallèle très clair entre, si on peut dire, la table eucharistique pour l'Église entière et puis le lit conjugal pour l'Église domestique. C'est littéralement deux autels pour célébrer des mystères analogiques, hein, celui de l'union du Christ avec l'Église et celui de l'union de l'homme avec la femme. C'est pour ça que dans la tradition, quand vous demandez par exemple à un prêtre de venir bénir votre maison, bénir votre appartement, il vient le bénir, etc. Mais au niveau des meubles, il y a un seul meuble qui peut être béni, c'est le lit conjugal. Parce que véritablement, c'est appelé à être vraiment l'autel conjugal proprement dit, où vraiment c'est une offrande à Dieu de cette unité, de ces mystères qui les dépassent tellement. Alors, moi j'entends tout de suite, on entend tout de suite, Maud, un certain nombre de critiques qui disent « Mais attendez, vous êtes complètement à côté de la plaque, on est tellement loin de cela. » Et effectivement, bien souvent, et nous les premiers, on est très loin d'avoir cette conscience de ce mystère et de cet appel liturgique pour notre sexualité.
Alors bien sûr, c'est l'appel que Dieu a placé dans la sexualité de l'homme et de la femme. On sait qu'il y a eu cette mésaventure de Genèse 3 qui a rompu cette alliance avec Dieu, qui a brisé nos cœurs, qui nous a...
La fameuse chute.
Voilà, qui nous a fait porter donc cette triple blessure de la relation à Dieu, la relation à l'autre et la relation à nous-mêmes qui sont maintenant abîmées, dévoyées, compliquées alors qu'elles étaient simples. Et finalement, cet appel d'une sexualité qui est une liturgie, c'est-à-dire le lieu même où s'exprime la présence de Dieu, où il se célèbre l'amour, ben nous en avons souvent malheureusement fait le lieu au contraire d'une exploitation, d'une douleur, d'une souffrance, d'un pouvoir l'un sur l'autre et d'une recherche égoïste éventuellement de plaisir par toutes sortes de déviations qui sont inimaginables et qu'on ne cherche même pas à recenser. Donc l'endroit même où devait se cristalliser la plus grande beauté devient aussi l'endroit de la plus grande fragilité et souvent l'endroit de la plus grande blessure.
Et c'est ça qui est important de bien souligner, c'est que en raison effectivement de notre péché, de toutes nos limites, de toutes nos fragilités, de toutes nos déviances intérieures, du péché qui habite notre cœur, effectivement l'exercice de notre sexualité va être complètement dévié. Et que si nous n'y faisons pas attention, effectivement, l'exercice de notre sexualité va être tellement loin de cet appel à la liturgie, à la communion, à une relation, je dirais très pure, non opaque, sans honte, comme dit la Genèse. Et c'est justement, il faut bien prendre conscience à la fois de l'appel que nous avons en tant qu'hommes et femmes, un appel universel à célébrer cette liturgie, mais de bien prendre conscience combien notre fonctionnement intérieur, notre péché, fait que nous avons une sexualité, ou en tout cas le monde dans lequel nous sommes, qui nous imprègne, souvent cette sexualité est dénaturée, dévoyée, elle contredit le dessein divin.
Voilà, parce que au départ, rappelons-nous que l'âme et le corps étant parfaitement ajustés, tout ce que vivait mon cœur s'exprimait dans mon corps. Or maintenant que nous sommes plongés dans une réalité tout autre à cause de cette blessure de la chute, nous avons une capacité à faire une disjonction entre notre cœur et notre corps. Et un corps peut exprimer de l'amour sans le ressentir à l'intérieur, et à l'inverse, on peut ressentir beaucoup d'amour et ne pas arriver à l'exprimer avec son corps. Donc il y a là une sorte de déchirure terrible qui fait que à chaque fois qu'il n'y a pas de transparence entre l'âme et le corps, celui qui est en face dans la relation est blessé. Nous nous blessons nous-mêmes et nous blessons l'autre. C'est pour ça que la sexualité devient à ce moment-là, par égoïsme, par manque d'écoute, par déviance, le lieu d'une grande souffrance. Et pourtant, l'appel de Dieu n'était pas justement d'en faire le lieu d'une souffrance, mais le lieu d'une béatitude.
Rappelons-nous ce que nous avons dit justement par rapport à l'alliance sur le mariage, que nous avions médité en allant un peu plus loin dans le texte de Matthieu 19. Nous avions souligné, au-delà de la discussion entre Jésus et les pharisiens, qu'à un moment il y a une discussion entre les apôtres et Jésus, qui soulignait l'impossibilité de vivre le mariage selon les desseins que présentait Jésus. Et de la même manière, cette présentation de la sexualité telle que le présente Jean-Paul II, telle que souligne Saint Paul, glorifiez Dieu dans votre corps, ça devient une expérience quasiment impossible. Et effectivement, comme les apôtres, on est à dire, mais vous rendez pas compte, c'est vivre cette communion et vivre cette sexualité selon le sens liturgique, mais on en est incapable. Et comme pour le mariage, au niveau de la sexualité, Jésus nous dit, effectivement, c'est effectivement pas possible, sauf si vous en recevez le don. Et c'est tout le don du Christ en nos vies, vivifié par l'Esprit Saint, ce salut où Jésus vient nous sauver, pour que justement que nous puissions trouver ce chemin de faire de nos sexualités en la purifiant, en se convertissant, nous pouvons véritablement retrouver ce sens dilatant de la sexualité.
Oui, rappelons-nous ce qu'on a dit sur la conversion. La conversion, c'est donc ce mouvement du cœur qui part du repentir, donc qui part du constat que nous sommes impuissants à nous aimer comme nous voudrions, que notre sexualité, notre tendresse, nos gestes ne sont pas toujours appropriés à ce que nous voulons exprimer. Eh bien voilà, déjà prendre conscience de ça, retourner en nous-mêmes, nous retourner vers Dieu en lui disant, là où c'est impossible, interviens pour faire advenir par ta grâce la capacité en moi de vivre cet amour dans la pureté, dans la beauté que tu as voulu dès les origines.
Et c'est vraiment une interpellation, effectivement, de Dieu, de Jésus, aujourd'hui dans nos vies conjugales, pour les fiancés, pour ce que vous avez à construire, de vraiment, cette dilatation, cette joie immense qui faisait crier à Adam, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, cette communion d'être qui va se signifier dans une seule chair, cette joie qui n'est pas simplement à vivre, je dirais, la nuit de noces, mais à vivre en crescendo pour toute une vie, cet appel-là, il est possible si on accueille la grâce de Dieu. De nous-mêmes, nous y aspirons profondément, mais de nous-mêmes, nous voyons que c'est tellement difficile à vivre. Et donc justement, Dieu, en accueillant Jésus au cœur de notre vie, en essayant vraiment d'être transformé de l'intérieur, d'être converti, alors à ce moment-là, nous pouvons, je dirais, grandir dans cette grâce. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quoi.
Voilà, c'est comme on disait lors de la parabole de l'enfant prodigue que nous commentions il y a quelques rencontres. Il a eu ce désir, je veux partir vers mon père et je veux lui demander pardon et me remplir de sa force et de son amour. De la même façon, si nous avons ce désir, avançons-nous vers Dieu avec confiance en lui demandant justement de nous aider à faire ce chemin de conversion que nous allons développer dans nos prochaines rencontres.
Effectivement, on va voir combien c'est un combat. C'est un combat, mais que nous ne menons pas tout seul, sinon il est perdu d'avance. Nous le menons avec le Christ, mais avec le Christ, nous allons pouvoir croître dans l'accueil et la célébration de ce mystère. C'est un don ineffable, immense, c'est un cadeau immense auquel aspirent pas seulement les chrétiens, mais en fait l'ensemble de nos contemporains. Et toutes les errances sexuelles de notre monde illustrent bien combien nous aspirons et nous cherchons de multiples manières à retrouver ce chemin de cette bénédiction originelle. Or, seulement le Christ peut nous y conduire.
The amazing grace of the Master, Jesus Christ. The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit.